Amis de Radio Occitanie, de la poésie, bonjour. Les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Exceptionnellement, cette semaine, je voudrais vous parler d'un poète qui, petit à petit, est en train de disparaître dans la mémoire collective, bien que son nom soit donné à un prix de poésie à Lyon. Il s'agit de Stanislas Rodonski. Je vais donc consacrer cette heure à Stanislas Rodonski, vous faire écouter cette voix de Stanislas Rodonski, en particulier de ses poèmes qui ont paru en 1991 aux éditions Déléature, première personne, La montgolfière du déluge, les poèmes précédés de Lettres à l'astrologue, suivis de À cela près, avec un avant-propos de Monsieur Veuillet. Alors, c'est peut-être cet avant-propos que je vais vous lire pour vous introduire dans cette poésie de ce poète qui a eu une vie, comment dirais-je, météore à la Rimbaud, puisque Stanislas Rodonski, qui est né en 1927, le 30 janvier exactement, 1927, et qui est mort le 23 juillet 1981, fut arrêté, hospitalisé à Péré-Vaucluse, et puis ensuite et à Villejuif, jusqu'en 1952. Et à partir de 1954 et jusqu'à sa mort, Stanislas Rodonski fut hospitalisé à l'asile Saint-Jean-de-Dieu dans la banlieue lyonnaise, ce qui explique que la ville de Lyon ait créé ce prix de poésie Stanislas Rodonski. À lire sur Stanislas Rodonski, Horizon perdu, c'est le titre, avec une préface de Bernard Cadoux, aux éditions Compact. Je ne sais pas si c'est disponible, ça a été édité en 1987. Alors, de qui s'agit-il, Stanislas Rodonski? Toute l'œuvre de Rodonski exprime l'intensité poétique qu'il habitait. Ses écrits et sa vie, qui sont indissociables, témoignent de son engagement, entre réel et imaginaire, en quête de l'Orient perdu qui le hanta. Il vécut au pied de la lettre l'inspiration qui le conduisait et les attirances contradictoires qui l'assaillirent. Au cours des années 1946-1947, il habita le plus souvent à Lyon, sur la colline de la Croix-Rousse, cette colline qui domine toute la ville, dans l'atelier de la rue des Gloriettes où demeurait sa grand-mère paternelle. Alors, des métiers de canut fonctionnaient encore dans les étages de la vieille maison. Les canuts, qui étaient le symbole de l'intensité de ce fonctionnement donc, de l'industrie textile à Lyon. Le bruit assourdi des machines et leur trépidation rythmaient les nuits, incitant à ce qu'il appelait la vigilance, dont Rodonski faisait alors un mot d'ordre. Des poèmes publiés sous le titre que je vais vous lire, La montgolfière du déluge, date donc de cette période, 1946-1947. Souvent, en fin d'après-midi, pendant l'année 1947, plusieurs personnes se réunissaient dans l'atelier. Alors, l'atelier... dans cet atelier, Jacques Bourget et Philippe Lagier, c'était les plus assidus, avec un certain Paul Chaland, qui vint quelquefois aussi dans cet atelier, écoutant Stanislas lire les écrits de la nuit, d'une voix ample et rauque, qu'il accordait à la nostalgie, au désespoir, à la révolte. Comme Antonin Artaud, ou aujourd'hui, Gerachim Luka, il chargeait. Alors ça, on parle de Gerachim Luker, mais bon, il est mort aussi, Gerachim Luker. Hein. Il chargeait ses poèmes par le seul ton de sa voix d'une puissance magique particulière qui nous fascinait. Dit donc les témoins donc de cet atelier où Stanislas Rodansky lisait ses poèmes. Et une fois achevée cette première lecture, il n'y revenait plus. Donc dans la lettre à l'astrologue que je vais vous lire, qui ouvre d'ailleurs ce poème « La montgolfière du déluge », Rodansky dévoile, avec des mots à vif, dans une tournure hautaine, sa détresse et son attente. « Mais où est l'amour » conclut-il. Interrogation sans illusion qu'il ne cessera plus de répéter. En quête d'identité et de reconnaissance, Rodansky et les quelques garçons, entre guillemets, dont il se dit, entre guillemets, l'animateur, affirmaient leur dégoût du monde, des faits qui leur étaient proposés. Alors le surréalisme incarné par André Breton fut à ce moment-là la ressource de l'esprit et leur unique espoir. Espoir qui a été déçu pour Rodansky, qui participa au mouvement surréaliste en 1948, avant d'en être écarté en compagnie de Saran Alexandrian et d'Alain Jouffroy, au moment de l'exclusion de Victor Bronner. Rupture sensible qui, accélérant l'affaiblissement de ses moyens de défense mentale, l'entraîna vers l'abandon. Alors, c'est ce que, je fais une petite pause, mais pour dire que vraiment c'est ce qui me semble peut-être caractériser ce mouvement aussi surréaliste, qui se caractérisait par les exclusions. C'était pas les adhésions, oui, mais les exclusions, cette facilité que l'on avait à rejeter l'autre, à exclure l'autre, cette espèce de tribunal permanent, bon, d'André Breton, qui, pour ma part, m'est véritablement insupportable. Le texte d'un seul après, que j'aurai peut-être le temps de vous lire, a été écrit par Stanislas Rodansky à Paris, le 22 décembre 1948, dans une chambre de l'hôtel Terminus Vaugirard, et il préfigure cette attitude fatale qui sera la sienne. Stanislas Rodansky dit « Il faut désormais compter sans moi, déjà. » L'émotion, l'humour grave, l'allusion provocante, tout est ici mis en œuvre pour exprimer l'inexprimable, faire partager la vision prémonitoire, transmettre la désespérance. C'est un texte poème poignant, agressif et blessé, qui révèle une déchirure irrémédiable. Quelques semaines plus tard, le jeudi 20 janvier 1949, Stanislas Rodansky est arrêté et il est hospitalisé à Péray-Vaucluse, puis ensuite à Villejuif, et ceci jusqu'en 1952. Et je vous ai dit qu'à partir de 1954, et donc jusqu'à sa mort, c'est-à-dire jusqu'en 1981, le 23 juillet exactement, Rodansky est hospitalisé à l'asile Saint-Jean-de-Dieu, donc dans la banlieue lyonnaise. La voix de Rodansky, à 20 ans, est perdue, mais 40 ans plus tard, nous dit Veuillet, ses poèmes conservent leur charge magnétique qui est traversée par l'éclat sombre qui annonce le destin tragique du poète. Et voici maintenant, je vais vous lire cette lettre. Donc, cette lettre à une astrologue de Stanislas Rodansky. Alors, de quand date-t-elle cette lettre? Je ne me souviens pas, c'est pas indiqué. Bon. Madame, j'interromps une lecture la dixième peut-être, de votre livre « Tous les signes expliqués », c'est le titre du livre, pour vous demander conseil. J'écris peut-être sous le coup d'une impulsion, mais je la sais judicieuse. Votre ouvrage remarquable révèle certains rapports essentiels de l'être que j'ai par ailleurs constatés et dont la maîtrise ou l'harmonie sont équivalentes de suprématie ou de vie majestueusement accomplie. Je connais les moyens qui y donnent cette maîtrise. J'ai longuement étudié les yogas tibétains. J'ai appris comment faire de moi ce que je veux. Mes découvertes ne m'ont amené qu'une sérénité passagère, car j'ai volontairement abandonné la pure contemplation intérieure pour me plonger dans une vie qui ne me laisse pas d'être tourmenté. J'ai découvert en moi la nature du vide. Que voile l'illusion de Maya? Alors j'emploie les termes du bouddhisme, car votre étude me donne à penser que vous êtes averti. Je me suis jeté dans le vide, et j'en suis revenu pour assister à cette vie que je veux, la mienne. Je rêve des événements qui manifestent ici la présence des hommes, ma présence. Je rêve et je vis ce rêve où les coups de couteau font couler du sang auquel je suis forcé de croire, et je crois ce que je vois avec ces yeux étoilés par la connaissance acquise. Je sais que si le ciel et la terre sont noirs comme de l'encre, nos cœurs sont pleins de rayons. Mais je crois avoir été consumé par les rayons, car je trouve un goût de cendre morte aux révélations, un goût de cendre vive à tout ce que m'apportent les jours. Pourtant, je suis l'animateur de quelques garçons à qui j'ai déjà montré comment l'esprit fait la vie. Je ne leur ai pas montré comment se défaisait ma vie, comment ils ne vivaient que de l'image du double qui me dévore. Mon style imagé vous est peut-être sibyllin, mais je ne peux écrire autrement qu'en suivant l'inspiration, qui me fait par ailleurs composer des textes surréalistes. Tout cela dit pour vous exposer le caractère angoissé de ma demande. Je voudrais que vous établissiez mon horoscope. Ne craignez pas les termes techniques, je suis un familier de l'astrologie, de l'introspection. Il me faut ajouter que tout le désespoir ne m'empêche pas de croire à une action vaste et solitaire par la poésie ou d'autres arts que je pratique. Mais où est l'amour ? Je renouvelle encore ma prière instante et vous prie d'agréer mes hommages respectueux. Signé Stanislas Rodansky, né le 30 janvier 1927 à 11h30 environ du matin à Lyon. Voilà. Ça, c'est la date et l'heure sont importantes pour l'astrologue pour faire donc l'analyse du signe astrologique. La montgolfière du déluge, voici son poème. La montgolfière du déluge oscilla au ciel fixe de mon lit, et ce fut le premier ballon libre après la rosée, l'éclair de l'éternité, quand mes yeux s'ouvrirent à voir le second soir de mes journées. Le torrent lave mes vitres de glacier fondu, aux deux ailes vertes de la cloche des neiges, le branle de l'azur fige notre miroir à trois faces. La nappe lente de mon regard condense l'avenir de l'éther. Je me propage silencieusement dans l'épaisseur du froid. Par le chemin de mes lèvres de quartz, les sables lointains s'en reviennent aux collines. L'aigle des fougères gagne en profondeur. L'horizon s'accumule dans ma chambre de voyance. Je suis au paroxysme de la buée, à l'imminence des foudres bleues, couché dans mon corps, au faîte d'un toit à double tranchant. La lisière de l'aube s'accroît en longueur, à la faveur du jour et de la nuit. Ma trajectoire féconde le sillon de mon passage. J'avance couché dans les draps stériles d'un lit de cendres mortes. J'avance, couché dans l'attelage d'une flèche d'eau courante. J'ai vu rayonner le double de mon éclipse. J'ai vu s'allumer le miroir de ma prison. J'ai vu mon point de mire au cœur de mer. Je vais absoudre tes chaînes d'un trait de flamme, t'affirmer en moi d'un trait de feu. Nous serons tous à l'aurore un delta de cristal baigné d'amour. Outre-terre. Alors ce poème, il avait été publié auparavant, avant que les éditions, première personne d'Éléature en 1991 le publie, il avait été publié dans un numéro, le numéro 23 exactement, de la revue Actuelle. C'est une revue qui a été consacré à Stanislas Rodansky en 1983. Outre-terre. Le rouet de l'orage file un mauvais coton. La map monde du désert tourne mal. L'homme double se dédouble et devient invisible. Je sors de mes yeux pour voir la nuit s'arrêter. Les jours panneront d'huile successives sur l'eau dormante. Je suis à la clé des voûtes. Les pierres sont faites comme le brouillard au couteau. Les perles et les planètes ont la même clarté stagnante. Tout le sable s'est déposé sur l'heure. La solitude est complète. Enfant de la nuit, je suis absent de mes rêves. Je ne peux plus mourir. Je suis perdu plus loin que moi. Je suis à jamais l'autre, la pluie du déluge, si la mer n'éclate à mon amour de l'aube. Alors, dans ce poème apparaît donc ce sentiment qui va le perdre, et ce sentiment contre lequel il ne pourra pas lutter, bien que il faisait de l'animation là avec des jeunes garçons dans cet atelier. Il a essayé de toutes ses forces, mais la solitude s'est emparée de lui, et là il dit la solitude est complète. Il n'arrive pas à sortir de cette solitude, Stanislas Rodansky. Emploi du temps. Je couve le feu sous la cendre des lions. J'attise un brasier de vipères d'où naîtront les poissons ardents de la destruction. Je vis. Je vis à mes dépens. Je nage contre-cœur dans l'eau du feu dévorant, que j'allume à la force des mots, poisson de mon sang. J'ai à cœur de vivre mot à mot, mon pas à pas. J'ai à cœur de couler mon fil de lettres au bout de mon cri, suspendu dans la poitrine de l'espace haletant, couvert par le vol sauvage de mon cri de nerf. Je vis du souffle de l'esprit sur la braise des heures. Je souffle un vent de mort. J'exhale un souffle à déraciner l'arbre de vie. Je souffle un courant d'air sinistre sur mes cendres. Je brûle d'adorer la nuit des fauves, où je vais égorger les idoles de la folie. J'étreins une meute de loups à hurler mon amour de la nuit qui te rend à moi. Voilà, donc là aussi, poème d'une grande désarroi. Il y a là tout le cri de désespérance de Stanislas Rodansky. Il me fait penser à Roger Maillot, par exemple, à tous ces poètes que l'on disait poètes maudits. Antonin Artaud, qui n'en peut plus. Ces gens, Gérald Neveu. Tous ces poètes qui ont utilisé la poésie et ont utilisé le poème dans ce que le poème peut avoir de plus intense, de plus absolu dans l'expression artistique pour dire cette souffrance terrible, cette souffrance dont ils ne peuvent pas sortir. Amitié perdue, souvenir dépareillé dans un grand cimetière d'oiseaux impurs, affublé de sentiments et de deuil, dénué d'asile, tristesse dépouillée d'énigmes comme un serpent. Un poème très court. Évidemment, il y a tout l'aspect surréaliste, mais en même temps, c'est cette métaphore aussi, souvenir dépareillé dans un grand cimetière d'oiseaux impurs, hein, affublé de sentiments et de deuil, dénué d'asile. Voilà. Quand on sait que cet asile dont il se dit dénué à cette époque-là, eh bien, l'asile, il va le retrouver, malheureusement, pour y finir sa vie pendant plus de 20 ans. La nuit me monte à la tête. Je veux durer fidèle à moi-même, fidèle à mon image, semblable, pareil au même. Vigilante nuit d'amour, brûle la décevante flamme du jour. Aimer l'amour, c'est brûler ce que j'adore, oublier ce que je sais, mourir à ce que je fuis, c'est aimer plus que moi-même, en te perdant, te voir renaître avec le feu, naître et mourir au bord des flammes. Voilà. Là, un poème d'une tragédie absolue aussi, parce que on voit ce besoin. C'est un besoin vital chez Stanislas Rodansky, ce besoin d'amour. Aimer l'amour, c'est brûler ce que j'adore. Voilà. Et cet amour, il dit la nuit me monte à la tête. Cet amour aussi qui lui monte à la tête. Eh bien, il lui monte à la tête en même temps que la nuit. C'est-à-dire, en même temps, la nuit, c'est quoi? C'est le noir, c'est les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Et voilà, il va falloir brûler ce que j'adore, cet amour, naître et mourir au bord des flammes. Voilà ce qu'il voudrait, mais cet amour, il ne peut pas, il ne peut pas, il ne peut pas l'atteindre. Voilà, vaste méandre d'un fleuve puissant qui serpente à travers les contrées virtuelles de mon corps boisé, versant ensoleillé, coteau de pierres sèches, où les pépites d'or forment un long serpent de vigne vierge, vignoble de mon vin, c'est la sève endormie dans les 1000 canaux de l'arbre de vie, dont le seul fût contient la mystérieuse fermentation du précieux élixir d'ambre et d'or qui fuse en trait d'esprit, lumineux d'abeilles, dans la pénombre d'un miroir qui s'éveille en riant aux éclats et se brise de 1000 feux croisés qui sont des rayons de miel où bourdonnent les grains de l'or des grappes. Méandre et contrée, que me dérobent déjà les fumées de l'ivresse qui obscurcissent les vignerons. Rivière aux flots puissants entre des berges ombreuses, rivière au sein des rêveries de ma substance, espalier de reflets roué de nœuds dans l'eau broyée au travers de l'écorce de la croissance, ruisseau de mon enfance qui s'écoule dans les paisibles pâturages du Dauphiné, torrent des Alpes dans les gorges de neige aiguë en coupé le souffle, au bord du vertige qui creuse l'estomac et le suspend aux givres, au bleu des névés froids comme l'arbre blanche, aux vertes des graves pyrénéens, gave d'or dont on ne sait où, qui parfois me fait des yeux verts. Mare de verre-bouteille, éclat de vitre qui s'écroule à travers les verrières de mon ciel de lit sablonneux, sang et eau de ma vie, alcool vierge du feu des glaciers de mes 10 ans, alcool roide, épée de mes 20 ans, épée de mon sang. Tissu de coups de poignard ourdi par devers moi, la rivière dévie de son fil d'or enragé et tisse sa chanson, où les trous sont des jours brodés par l'aiguille des horloges qui trame à contre-jour mon destin. De fil en aiguille, les grandes odes et l'onde en moi se dessinent pour arrêter une image qui est la mère de mon apparence. Donc, un poème là, beaucoup plus... Alors, déjà, c'est un poème qui est... c'est une hymne à l'ivresse, donc où on vante les mérites du vin, des vignobles, ce vin qui est la sève endormie dans les mille canaux de l'arbre de vie. Hein. Voilà. C'est ce vin qui va réveiller la vie et qui va la rendre tout d'un coup, la rendre à la lumière, cette vie, qui va aller à la lumière comme du miel, qui va lui donner enfin cette espérance et qui va tant lui manquer plus tard. Fou, fatras, ne rien savoir, la seule certitude de soi-même, fin, cet aveu au terme de la longue étude de tant de choses nulles, je reste sur ma fin. Dieu relatif, science nulle, autant de secrets qui préservent. Quoi? Rien? Qui? L'homme de rien? Comment? En rien. Fou! Oh! Fuyons en foule, en flot fugace. Écoute, Hiram, la mer est lasse de son propre aveu qui se répète en vain. La mer est basse. Fou, fatras, faillite, faux fuyant, fatigue, furtive fièvre, figure flétrie, flamme, femme et fumée, folie, oh fou, fuyons en foule, fuyons en fraude, fou. Voilà. Donc là, il y a le style haché de Stanislas Rodensky. Il parle de quoi là? Ne rien savoir, c'est la certitude de soi-même. Il y a toujours cette idée quand même toujours très négative. Hein. La seule certitude de soi-même, c'est de ne rien savoir. Et puis, il parle de... Alors, il fait quand même un jeu de mots. Fin, F-I-N, hein, il met fin, point d'exclamation, fin. Et il dit, cet aveu au terme de la longue étude de tant de choses nulles, deux points, je reste sur ma fin, la fin étant F-A-I-M. Ça me fait penser d'ailleurs au slogan des agriculteurs, notre fin, F-I-N, sera votre fin, F-A-I-M. C'est ce qu'il dit, sa fin, et bien à la fin de sa vie, donc il restera quand même sur sa fin, F-A-I-M. Hein, c'est-à-dire que cette fringale d'absolu qui le dévore, cette fringale d'amour, qui le dévore aussi. Tout cela est bien et ne sera pas apaisé. Il va rester sur sa fin tout le temps. Je dis voir, car peut-être je suis l'homme qui dort au fond de la mer. La marée des pas frappe mes yeux. Je vois l'anneau perdu d'une chaîne, la chaîne des larmes brisées des épaves. Je vois des passants dans la vitre d'une heure, des êtres de diamant dans le noir animal de la cécité. Le vent réchauffe la suie de leur abandon. La mer lave mes yeux au carrefour de la foule. Mon regard est un miroir parlant. J'écoute la voix du cœur. La marée humaine parle la voix du sang. Je suis au fond de l'œil. Il pleut toujours à voix basse, depuis la grande ondée du monde quotidien. Je vois le brouillard des hommes fumer sur la cité de leurs travaux. Je vois une ville revenue du déluge retourner au point du jour. La nuit, par marée basse, je marche sur le sable des vies oubliées. À l'heure du cheval, j'inaugure la cavalerie de mes pas dans la ville. Le fleuve a coulé toute la nuit. 8 juments d'écume épaulent un pont, des crinières s'allongent, et la mort s'élève doucement des eaux. L'ombre d'un étalon glisse sur les murs, le soupir humide de l'effroi attend le baiser d'un crime, et la cavalcade des rues s'efface. La lumière va venir de l'Orient. Tibet, Tibet, ô toi, qui es déjà plus que le mythe d'un salut, Tibet, avec l'espoir de mon dernier regard, toi du monde, d'où glissent une à une des villes futures, le seul glacial des aubes bleues de nos cités, l'horizon miraculeux plus dense au bout du rêve, le regard des prophètes plus dense au ciel de l'exilé, Tibet, dans le givre azuré des renaissances, les tranchants verts de la ciguë crient au sein de la neige, et les prairies s'envolent à la venue de mes pas. La guitare des camphriers verse du lait sur mon sommeil. Ô Tibet, je t'appelle en pleurant sur mon servage. Le natier de la persécution frémit aux aventures de mon corps. La scierie aiguë du voyage intérieur m'entraîne plus loin que moi. Je tremble comme une feuille à l'allégresse de renaître du vent. Mon destin précède les bergeries nuageuses vers la mer. À chaque pas, j'écoute la ville cheminer avec moi. Un château masqué de cristal qui s'éveille à la pureté. Sur les quais les plus sombres de l'orage du fleuve, j'ai voulu voir venir à moi les sentinelles de la pluie. D'un versant à l'autre, l'ombre m'attire, je suis un pèlerin sur les pentes de l'obscurité. Au bout d'un pont, la lumière m'est impossible. Mais dans la chanson des femmes, je vois celle qui est silencieuse. Je contemple la joie mortelle d'une rencontre. La nuit marche et vient à moi. Muraille de chair pétrifiée dans la lenteur, le visage de tout un être se prépare dans les briques. Le charbon nécromant brûle les déchets d'une vie, mais la merveille verra ses yeux dans le ciel. Continent à la dérive, comme le mouvement d'un enfant, le frémissement intime de la mer au cœur des rocs. Alors là, il y a cet espoir vers ce mythe-là du Tibet, hein, le mythe du Tibet. Alors dans les années 60-70, avec les beatniks, le Tibet, c'était le Kathmandu, puis la drogue aussi, hein, ça a été ça, cette espèce de miroir aux alouettes, hein, il faut bien dire les choses comme elles sont, mais aussi le toit du monde, c'est-à-dire un des pays au monde où s'offre cette majesté absolue de la nature, cette hauteur incommensurable que peut offrir notre planète. Et lui, bien sûr, il va être attiré par ça. Mais en même temps, il dit qu'il est un pèlerin sur les pentes. Alors, c'est les pentes, on pourrait dire sur les pentes dont on va vers la lumière, puisqu'on monte. Mais non, il dit sur les pentes de l'obscurité, au bout d'un pont. Et alors là, il dit, pour la lumière m'est impossible. Voilà. Et puis, cette lumière qui est impossible, mais il va trouver peut-être dans la chanson des femmes, je vois celle qui est silencieuse, il dit, je contemple la joie mortelle d'une rencontre. La joie mortelle d'une rencontre. Voilà. Tout Stanislas Ravensky est peut-être dans ce vers, la joie mortelle d'une rencontre. Cette rencontre qu'il sollicite, cette rencontre dont il espère cette rencontre. Et en même temps, il sait que, de par sa nature, cette rencontre, eh bien, n'aboutira pas, elle lui sera mortelle. L'aube infuse des draps de fer blanc, la mer hélas, et l'art meurtrier. L'aube infuse des draps de fer battus à froid. Mon enfant polaire dort sur toute la terre, dort à la surface des éclipses, à la faveur de mon ombre vigilante. Ma mère pleure et regrette sa chair inconnue, son fruit défendu, ma mère perdue, mon enfant de rêve s'étreigne à mon couvert de honte, et je vois un chemin de ronces suspecte. Ma trace égarée dans l'hiver, je cherche la neige en fleurs et je cherche ma tombe de naissance, notre sanctuaire prénuptial. Seul, au fond de moi, je te cherche dans la nuit des temps. Seul, éperdument seul, au fond de moi, tu chemines sagement dans la lenteur. Depuis l'origine, je te vois, et je t'ignore à travers les âges. Pour t'approcher sans plus te voir, te trouver pour me perdre et t'oublier alors que tu es là, au déclin des planètes de l'ingratitude, à la lisière de tes yeux sans limite, le désert brûle et tu naîtras de mes cendres. Voilà, il y a l'image des cendres, la métaphore des cendres hein, qui revient en permanence donc dans l'œuvre de Stanislas Rodansky. La mer a jeté sur la plage un dé à jouer au fil de l'épée. L'aurore a découvert dans les sables un dé à coudre les paupières. Au fil des lampes, le jour s'est renoué. À l'aube, je meurs. L'ombre me monte à la tête, pendue au fil de mon sang. Je te suis à perte de vue. Je suis pareil au même, pareil. Et je veux me perpétuer. Durer encore avec les flammes. Veiller ton sommeil et durer avec moi-même. Brûler mon ombre pour vivre et te voir au bord du feu, c'est renaître à ce que j'aime et ne vivre que pour t'aimer plus encore, t'aimer en mourir. Voilà, on retrouve là cette idée qu'il y ait familière maintenant, il use souvent de cette image, me monte à la tête. Là, c'est l'ombre qui lui monte à la tête. T'aimer à en mourir. Voilà. Il y a de ça dans Stanislas Rodansky, cette idée que l'amour ne peut être toujours que un amour total, hein. C'est vraiment t'aimer à en mourir. À l'aube, la mer a jeté sur la plage un dé à jouer. L'aurore découvre sur le sable une lame à couper le fil des jours, le fil d'une épée qui tranche la nuit et fait la liberté de nos liens sanglants. À l'aube, la nuit me monte à la tête, et je veux durer encore avec moi-même, me perpétuer au bord de ton ombre, veiller avec les flammes, et te voir au bord du feu mourir à ce que j'aime, renaître et perpétuer encore nos cendres vives. Dans l'ombre où je suis pareil, et dans de plus sombres roses, à l'horizon éperdu des mers, comme sur le sable de ce sommeil, fuse un glas de corbeaux, de revenantes cloches. Et ce sont toutes les roses de l'écume qui dorment à ton front. Je t'aime à en mourir, et je vis pour t'aimer davantage. Je descends vers la grève, pour que les disciples du soleil soit uni aux multiples de la mer, à l'horizon du sommeil. Regarde comme les flots sont là. Lorsque le soleil couchant est au fond de ton cœur, à l'horizon de ton lointain sommeil, de tes yeux battus par les vagues du jour, grands ouverts au bout de nos peines, au grand large, dans cette baie de larmes, regarde comme la mer, hélas, innocente, étendue dans l'infini crépuscule, née de la neige, je descends vers la grève. Les disciples du soleil sont unis aux multiples de la lumière. Ta flamme est sur la tour, le pavillon brûle. Alors on va retrouver donc des images chères à Rodansky, où il dit encore, alors il parle des cendres bien sûr, hein, et te voir au bord du feu, veiller avec les flammes, hein, toujours cette idée des cendres, du feu. Il dit encore une fois, ce qu'il avait dit tout à l'heure, ce qui lui monte à la tête. Il y a toujours cette la nuit, c'est là, à l'aube la nuit me monte à la tête, à l'aube la nuit me monte à la tête, c'est-à-dire que c'est une image terrible ça, à l'aube c'est quoi, ça annonce la lumière qui arrive, c'est-à-dire ça annonce le jour, la clarté, et lui quand il voit l'aube, qu'est-ce qui lui monte à la tête, c'est l'inverse, c'est la nuit qui lui monte à la tête. Et dans l'ombre où je suis pareil, et dans les plus sombres roses, à l'horizon éperdu des mers, comme sur le sable ce sommeil, fuse un glas de corbeau. Voilà. Toujours cette image noire, cette métaphore noire, un glas de corbeau. Il n'y a pas plus sinistre que cette image, hein, un glas de corbeau. Stanislas Rodansky. La première personne du présent de l'indicatif, de point, le poète. Je prétends me libérer. Se prétend roi, je suis, sujet du verbe agissant, cette très longue phrase qui passe parangon de mon existence, je suis, première personne du verbe aimer, l'objet du désir, destiné aux plages du poème, la nuit conjugue mes efforts, les éclairs. Et après le « je », le verbe « être ». Le verbe « être ». Il est loin. Il est temps. Il est venu. Reprendre l'esprit. Il est revenu sur ses pas. Il est perdu dans la nuit. Il est l'heure du conte. Rendu sur terre. À gorge déployée. Il est rendu à l'évidence de ses armes. Blanches, avec du sang noir. Avec du feu. Et lui-même dans sa gorge, il est là, mort. Voilà. Encore une fois, on retrouve donc toutes les obsessions de Stanislas Rovensky avec le feu. Et puis la mort, hein, puisque le dernier vers, c'est le mot mort. Le verbe être, alors qu'il parle du verbe être, hein, pour lui, être, il ne peut pas penser au verbe être sans l'associer quand même à ce qui n'est pas, c'est-à-dire il est là, dit-il, mais il est là, mort, c'est-à-dire qu'il n'est plus là. L'humour et la mort. À vivre sans merci, l'on ne se veut pas de pardon. On ne se veut pas, mais on est, et cela ne se peut plus. Cela qui naît, en se le pardonnant, n'a qu'un recours en grâce, être, mais qui plus est. L'être a raison de soi, l'être à sa merci, à tort d'être. Mais qu'à cela ne tienne rien, qu'à n'y ait rien ne tienne, c'est à tout prendre. Cela va de soi, chemin faisant, s'incarner, je pense, donc je suis ma pensée. Donc je suis ma pensée. Il est un autre jeu, un jeu tel qu'un autre paraît nécessaire, le jeu de la nécessité même. Tu as la parole en ce qu'il l'est-tu, comme il se doit faire, en dépit de soi, soi-disant autre. Un point c'est tout ou rien ne va plus. Un point nul, car l'un est l'autre nu. Un point, voilà tout, ce que je suis à la ligne. Un trait tiré à l'arc-en-ciel, un trait de feu, voilà tout ce que je suis, cœur unique et insensé, percé. Voilà. Alors bon, beaucoup d'humour, un humour fou dans ce poème. Ça veut dire que la lucidité de Rodansky est une lucidité totale. Parce que cette lucidité le conduit, bien entendu, à voir, il sait à quel point il est hanté par par la mort, par le néant, par le vide. Mais en même temps, il s'en amuse, c'est-à-dire que ça ne lui fait pas perdre l'humour. Par exemple, quand il dit, l'être a raison de soi, l'être à sa merci, à tour d'être. Donc, je suis ma pensée. Alors, avant, il disait, je pense, donc, je suis ma pensée. Là, je pense, donc, je suis ma pensée. Alors, il y a évidemment le suis, c'est-à-dire du verbe être, mais également du verbe suivre. Je suis ma pensée. Et donc, je suis, dit-il plutôt, ma pensée. Et alors, ma pensée, il ne l'écrit pas comme ma pensée, M-E-A, plus loin, la pensée, P-E-N-S-E, accent et E, mais ma pensée, le verbe penser, ma, M-A-apostrophe-A, pensée. Donc, je suis ma pensée, donc je suis ma pensée. Voilà. Il y a tout cet humour dans ce texte, mais en même temps, qui s'enchaîne dans une espèce de logique de démonstration. Il est un autre jeu. Jeu, J-E, et puis il dit un jeu, J-E-U, tel qu'un autre paraît nécessaire. Voilà. Donc, il savait s'amuser aussi avec les mots, s'amuser avec les idées, avec le sens des mots. Mais en même temps, voilà, il finit quand même, toujours ce texte finit sur une image terrible, l'image d'un cœur unique et insensé, point, percé. C'est un cœur percé. Plein pouvoir. Premièrement, en connaissance de cause d'alphabet, et du quadrille nominal des mots. En qualité de poète, j'ai carte blanche, miroir fertile où germera mon image, carte d'identité maternelle à ma réalité, carte forcée parce que c'est écrit. Poème vierge, marqué d'une croix, mon point de mire. Les jours viennent, s'y éclairent, s'éloignent à leur gré. Le delta des sables écoulés scelle un cercle vicieux, mais la rose des quatre vents fleurit sur l'horizon cardinal. La porte des mers sort de ses gonds, battant au souffle de l'esprit, battant les vagues d'accord avec l'eau fixe. Je suis au beau fixe, frappé de ravissement. Je suis au monde, et tout y figure en clair-obscur naturel. Je suis à l'heure dite, au point du poème, je suis terre à terre promise, terre à feu, bulle d'eau dans l'air ambiant. Je suis en liberté, provisoirement seul au monde. Je suis en vérité, fatalement uni à la nuit. De nouveau, la même obsession. Je suis en liberté provisoirement, seul au monde. Donc, cette idée de la solitude, qu'il est seul au monde et que sa solitude est irrémédiable. Là, on peut se dire provisoirement. Ça veut dire qu'il y a peut-être une petite lueur d'espoir. Et puis, le vers suivant, il dit non. Là, il pensait qu'il était en liberté provisoirement seul au monde, et puis il dit, je suis en réalité, en vérité, fatalement uni à la nuit. Voilà, toujours cette nuit qui revient, cette absence de lumière donc, qui arrive toujours, la nuit. Visitation. Chaque soir, j'ouvre ma porte à tout venant. Je suis menacé. C'est le déluge. On frappe un coup dans l'eau de l'épée. Le fauve se marche sur la queue en connaissance de cause. On frappe à mes tempes. Qui vive ? Moi. Qui ? Moi. Toi. Alors un poème d'abord très court, très simple, il appelle Visitation, donc ça explique le toit. On se demande qui est ce toit. Qui, moi, toi, en définitive, moi et toi, on voit bien que ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. Et donc, il y a là peut-être aussi l'aveu de une sorte de schizophrénie de Rodansky, avec cette lucidité peut-être aussi sur cet état où il est, cette visitation qui est propre aussi au schizophrène et qui va le conduire ensuite passer des années à un hôpital psychiatrique. Aimant l'amour, solitaire foyer, la nuit, je veille et m'embrase. Pendu au fil de mon sang, le soleil remonte le cours du temps, qui se fait jour en fuyant, de ma gorge sanglante, vigilante nuit d'amour, éteint la flamme du jour. À perte de vue vers l'Occident, une flèche vole et s'éteint, dans l'œil qui s'abîme, vogue la galère, sur l'onde amère, de l'ombre, lui, l'espoir. Étoile du marin, promesse du matin, la flamme est sur la tour, vigilante nuit d'amour, brûle vers le jour, pour le salut des dormeurs, qui sombrent à chaque heure. Il faut qu'à chaque aube, je meure avec la nuit, lorsque jour ma ronde s'éteint, ma garde prend fin. Au cadran de la destinée. Notre heure est voilée, nous ne faisons qu'une ombre. Oh, durer encore avec nous-mêmes, rester pareil au même. Pareil, et se perpétuer, mourir au bord des larmes, naître avec le feu, solitaire foyer, notre flamme est sur la tour, vigilante nuit d'amour, brûle la flamme du jour. Voilà, il y a tout Stanislas Rodansky dans toutes ces images, l'image de la tour, l'image de la flamme, l'image du jour, l'image de l'amour, vigilante nuit d'amour, brûle la flamme du jour. Voilà. Brûle la flamme du jour. Ça veut dire, là aussi, c'est une image quand même qui est assez terrible, parce que la flamme du jour, ben, si elle brûle, ça veut dire que, ben, elle va s'éteindre. La mer à l'aube a jeté sur le rivage un dé à coudre. Les paupières en silence, au fil de nos lampes, un dé à jouer. L'aurore sur le sable arme le silence, éclaire comme le jour, a découvert au fil de l'épée, et glisse les heures qu'une lame va trancher. Voilà, ainsi donc s'achève notre émission sur ce dernier poème de Stanislas Rodansky que je vous invite à lire. J'aurais voulu, peut-être vous lirai-je une prochaine fois, de la plus haute tour de ma jeunesse. Voilà. Stanislas Rodansky, vous pouvez peut-être essayer de vous procurer ce livre aux éditions Première Personne d'Éléature, La Montgolfière du Déluge. Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente semaine à l'écoute de Radio Occitanie et nous vous disons à la semaine prochaine à Lissas.